Priorité directe,
Jean-Michel. Retrouver Donald Trump, qui va s'exprimer sur la guerre.
Hier soir a été une rencontre, ça a été très puissant. J'accueille tout le monde dans le cadre du deuxième conseil des ministres de cette administration. Nous faisons des choses qu'aucune administration ne fait, c'est-à-dire que nous faisons ça en toute transparence. Nous laissons entrer la presse. Nous sommes plus transparents que toutes les autres administrations dans l'histoire de notre pays, me semble-t-il. Je crois que auparavant, la presse n'était jamais invité au Conseil des ministres, c'est ce que nous faisons. Nous sommes heureux de vous accueillir. Une équipe plus puissante, plus efficace que n'importe quelle équipe depuis 8 ans. Nous avons récupéré la frontière la plus perméable du monde. Nous en avons fait la frontière la plus sûre de l'histoire de notre pays. Aucune entrée clandestine depuis 12 mois. Zéro entrée illégale aux États-Unis depuis 12 mois. Cela n'est pas forcément reconnu. Personne ne se présente, car si les gens arrivent, eh bien, nous les expulsions ou nous les empêchons de rentrer. Donc zéro. Voilà ce que nous indiquent les rapports. Ça me surprend moi-même, parce que j'ignore comment c'est possible. Mais c'est les chiffres qui me sont remontés depuis 12 mois. En 2025, nous avons connu la plus forte baisse du taux d'homicide. Nous avions un taux d'homicide important, avec une baisse donc encore plus importante en 125 ans, donc depuis l'année 1900, et ce malgré l'arrivée d'étrangers d'étrangers qui arrivent de prison, qui arrivent d'hôpitaux psychiatriques, des trafiquants de drogue et ainsi de suite, des gens qui entraient donc de manière clandestine sous l'administration Biden. Nous en avons fait partir un très grand nombre, il en reste que nous cherchons. Il y a eu 11 888 meurtriers qui ont été autorisés à rentrer dans notre pays, que nous avons pourchassés, mis en prison ou expulsés, donc 11 888, dont la moitié a commis plus d'un meurtre. Et c'est ce type de personnes qu'on a laissé rentrer, et il ne faut pas pardonner les démocrates pour les choses épouvantables qu'ils ont faites à notre pays. Le fentanyl rentre beaucoup moins, 61% de baisse de l'arrivée de cette substance par voie maritime, sur l'océan, par la mer, moins 97% par les voies maritimes. Grâce à la majorité républicaine au Congrès, nous avons fait passer la plus forte réduction d'impôts de l'histoire américaine. Les démocrates ont voté contre. Les remboursements d'impôts se sont élevés en moyenne à 5 000 $. Les marchés boursiers ont cassé plusieurs records depuis mon élection. Nous avons eu un record il y a 68 jours, un record historique. Et également dans les fonds de capitalisation de retraite privée, les fonds 401K. Quant à l'international, le Venezuela, l'Iran, notamment sur l'Iran, des beaux succès, plus de marine, plus d'aviation, plus de leadership, les dirigeants de premier niveau, de deuxième niveau ont été éliminés, ils en sont maintenant au troisième rang. Encore une fois, des bonnes valorisations des fonds de retraite privés. Cela profite à tous les Américains, aux Américains moyens, aux Américains qui travaillent. Des records sur ce dossier-là également. Et cela va de pair, bien sûr, avec les marchés boursiers, puisque les deux sont liés. Grâce à l'accord sur la nation la plus favorisée au niveau commercial, eh bien, je crois que c'est une chose vraiment très importante. Les prix d'un certain nombre de denrées baissent, en particulier pour les médicaments. Les prix des médicaments ont baissé avec des différences de prix de l'ordre de 400, 500, voire 600%. 1000 ressources génériques ont été enregistrées dans notre base de données que vous retrouvez sur Internet. Donc des médicaments qui sont vendus à 98%, 99% moins cher que le prix initial. Des pays comme l'Allemagne ou L'Angleterre, le Royaume-Uni achetaient un certain nombre de médicaments pour 10 dollars qui étaient vendus ici, 100 dollars. Tous les pays ont donc accepté de nous donner cette clause, sachant que s'ils ne le faisaient pas, nous aurions augmenté leur droit de douane chez nous jusqu'à 50%. Donc si vous nous vendez ces produits, il faut vous aligner sur le prix. Et chacun des pays a accepté d'aller dans cette direction. Les laboratoires pharmaceutiques également. Donc nous accorder cette clause de la nation la plus favorisée. Aujourd'hui, nous payons les prix, nous avons les prix de médicaments les plus bas du monde. Et le monde est plus grand que les États-Unis. Il a fallu s'ajuster à ce que nous demandions. Un certain nombre de médicaments sont passés de 20 à 10 dollars. Ou de 130 dollars à 20 dollars. Peut-être que vous vous en rappelez, lors de mon premier mandat, j'avais déjà réussi à faire baisser les prix des médicaments de plusieurs pourcents. Les médicaments n'avaient pas baissé depuis plus de 20 ans. Et aujourd'hui, nous réduisons encore le prix des médicaments de manière considérable, 400-500%. On peut aussi le calculer différemment et dire que les prix baissent de 70-80-90% selon la méthode de calcul. Je crois que c'est sans précédent. Nous avions, je le répète, les prix les plus élevés du monde. Aujourd'hui, les médicaments sont vendus aux prix les plus bas au niveau mondial. Et c'est très important pour la santé des Américains. Il y a beaucoup de choses qui sont prescrites.
C'est un conseil des ministres que tient Donald Trump. Donc il est question, bien sûr, de politique américaine. Il a dit un mot sur l'Iran. Les leaders iraniens ont été éliminés, mais rien encore sur ce qui se passe en ce moment, Ulysse Gosset, parce qu'on continue de discuter, on continue de négocier, on cesse de dire qu'il y a un accord imminent, mais on ne le voit pas venir pour le moment.
Non, ce qu'a dit Donald Trump un peu plus tôt dans la journée, c'est il faut que ça soit un bon accord pour les Américains et qui empêche ad vitam aeternam l'Iran d'avoir l'arme nucléaire. Donc, a nice agreement, c'est-à-dire un accord satisfaisant pour Trump et pour le peuple américain. Sinon, il n'y aura pas d'accord. C'est un petit peu le même refrain depuis quelques jours. C'est soit un accord qui est un bon accord, soit pas d'accord du tout. Donc, mais on voit quand même que la négociation effectivement continue. Il ne dit pas c'est fini. Il dit on avance pour arriver. Et pour respecter ce qu'il appelle les lignes rouges. C'est l'autre mot important dans sa déclaration. Les Iraniens savent très bien quelles sont les lignes rouges que je n'accepterai pas que l'on dépasse. Alors nous, on ne connaît pas les lignes rouges,
mais ils parlent de l'armée américaine.
Notre opération au Venezuela a été très rapide. Et l'opération en Iran s'est également très bien déroulée. Les Iraniens veulent avoir un accord avec nous. Nous ne sommes pas encore satisfaits de ce qu'ils nous proposent. Mais nous finirons par obtenir satisfaction. Il faut terminer ce que nous avons commencé maintenant. Leur marine a été détruite, je l'ai déjà dit mille fois. Leur marine a été détruite, leurs forces aériennes ont été détruites. Tout a été détruit. Et ils négocient sur un tas de cendres. On verra, peut-être qu'il faudra y retourner et terminer ce qu'on a commencé. Aujourd'hui, on parle avec Steve Witkoff, Jared Kushner. Ils font du très bon travail. Je crois qu'ils ont envie d'avoir un accord, ils n'ont pas le choix. Leur économie est en chute libre, 250% d'inflation, leur monnaie ne vaut plus rien. Leur système économique est complètement effondré. Ils pensaient qu'ils pourraient être plus patients que nous, parce que moi j'ai les élections de mi-mandat. Je m'en fiche des élections de mi-mandat. Les gens comprennent très bien ce qui est en jeu ici. C'est très simple. L'Iran ne peut pas obtenir d'armes nucléaires. Nous le faisons pour le monde et pas pour nous-mêmes. Nous avons un appui également d'un certain nombre de pays. Nous n'avons pas besoin de leur appui du tout, mais nous avons été appuyés, soutenus par d'autres pays. L'ennui, c'est que vous êtes appuyé lorsque vous n'avez pas besoin, mais lorsque vous en avez besoin, personne ne vous aide. Grâce à l'opération Epic Fury, l'État qui soutient le plus le terrorisme au monde ne dispose plus des capacités à produire des armes nucléaires. J.D. Vance, avec la Task Force de la Maison-Blanche, travaille sur un certain nombre de dossiers, y compris la lutte contre la fraude. Peut-être que vous rappelez d'Eliot Ness, le grand détective qui luttait contre la fraude. Ça fait penser à un film, la façon dont ils avaient tout installé. Et ils sont à la recherche de milliards de dollars de fraude. Et en plus, on me dit qu'on n'a encore rien vu et que les gisements de fraude à découvrir sont très importants. En tout cas, c'est des montants très importants qui sont détournés par des escrocs, par des voleurs. Et j'espère que cette équipe autour de Vance va s'en prendre à ces voleurs. Ce n'est pas une erreur. Tous ces détournements sont intentionnels. Il y a un cas de détournement de millions de dollars, en fait. C'était le cas d'une personne qui était dans le cadre d'un service qui s'occupait d'une personne âgée. Un véritable escroc. Les Somaliens, regardez ce qu'ils ont fait à l'état du Minnesota. Ce sont une bande d'escrocs. Ilan Omar, leurs représentants, tous des escrocs. Mais nous sommes sur leur cas et nous allons continuer. Nous sommes attentifs. Et quand je vois ce que vous faites, je me dis que je suis très fier de vous. En quelques mois, nous avons pu mettre à jour de très nombreux cas de fraude et de détournement avec des paiements suspects, des millions de dollars détournés, des millions de dollars de fraude. Peut-être que vous avez entendu parler de cet organe qui s'appelle TAD, qui est piloté par J.D. Vance. Je ne crois pas. Mais encore une fois, on travaille à récupérer des centaines de milliards qui ont été détournés, qui ont été volés. Et je crois qu'aucune autre administration ne s'y est mise. Or que tout le monde s'enrichit de cette manière-là avec l'argent du contribuable américain. On ne peut pas sauver la sécurité sociale à l'américaine sans prendre des mesures de cette nature. Le nombre d'escrocs sociaux de 15 ans, 20 ans, 25 ans, qui reçoivent des paiements avec des montants très élevés, ce nombre-là est très important. Il y a beaucoup de gens qui font ça.
Alors, c'est vrai qu'il maintient une certaine ambiguïté, là, quand même, Donald Trump. C'est-à-dire finir le travail en Iran ou pas, retourner frapper ou pas. C'est une question de temps. On a du mal à voir la stratégie, Ulysse Gosset.
Alors, non, moi, je pense qu'on est vraiment dans la négociation. Là, le ton du président, le fait qu'il dise, par exemple, l'Iran n'a pas le choix, leur économie s'est effondrée. Nous ne sommes pas encore satisfaits de ce qu'ils nous proposent, mais ils vont forcément y venir. Il y a simplement une ligne rouge qu'ils ne cessent de répéter, c'est le nucléaire.
L'uranium.
L'Iran n'aura jamais l'arme nucléaire. Alors, l'enrichissement de l'uranium, est-ce qu'il va y avoir un délai pour qu'ils n'en produisent pas? Est-ce que les fameux 441 kilos qui ont disparu, qui sont enrichis à 90%, qui peuvent fabriquer une bombe atomique, est-ce qu'on pourra les diluer en Iran, en Chine, aux États-Unis? Ce n'est pas encore clair. Mais moi, je sens que dans le ton, le président dit, les négociations progressent bien. On n'est pas dans le retour à la guerre, et on n'est pas dans le ton menaçant qu'il a pu avoir au cours de certains speeches publics.
Oui, alors l'Iran dit d'ailleurs de son côté que le régime iranien ne croit pas au retour des frappes américaines. D'ailleurs, il y a une rhétorique, alors certes, on est en train de négocier, mais il y a une rhétorique de part et d'autre toujours assez martiale. Alors ça fait partie sans doute de la communication. Lorsqu'on négocie, il faut que chacun montre qu'il est en position de force dans ces négociations, mais c'est quand même ça qui motive les deux parties, c'est de trouver enfin un accord.
Ouais, en fait, l'Iran est passé de « je ne crains pas le retour à la guerre » et « je ne crois pas le retour à la guerre ». Je pense quand même qu'ils craignent le retour de la guerre, parce qu'ils savent que Trump est assez imprévisible. Mais je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Ulysse Gosset. On est dans la phase préliminaire aux négociations. On est en train de regarder le champ sur lequel on va négocier. Et avec les lignes rouges qui sont là. Mais c'est plutôt positif. Moi, en tant que militaire, je réagis en disant que les camarades américains ou iraniens, enfin les Américains, ils savent pas pour combien de temps ils sont là, quels vont être les prochains objectifs, quel est l'objectif, et les forces sont déployées depuis un certain temps quand même. Et je crois qu'il y a une usure, même si c'est une très puissante armée, etc. Il y a quand même une usure des personnes.
Il n'y a pas eu de relève
Si, il y a eu une relève de porte-avions. Il y a sans doute des relèves sur des autres bateaux, mais je veux dire, quand on est en préparation de mission de guerre, l'arc est tendu. Et on ne peut pas rester des semaines et des semaines très tendues. L'armée américaine sait gérer ça, mais quand même, ça me pose une petite difficulté du côté des militaires. On est vraisemblablement dans une pause parce que il n'a pas affiché de ligne rouge qui soit déterminante à part l'uranium, mais ça, de toute façon, jusqu'au bout, on parlera de l'uranium.
Alors, vous pensez qu'il n'y aura pas de retour des frappes dans un premier temps. Vous, Philippe Carcenti, vous qui représentez le comité Trump en France, vous dites si, ça va être inéluctable, car les Iraniens, de toute manière, ne céderont pas.
C'est inéluctable parce que les positions ne peuvent pas se rapprocher. C'est-à-dire que les exigences américaines et israéliennes et des pays du Golfe de ne plus avoir cette épée de Damoclès, d'avoir un État voyou qui, en face d'eux, a une préparation d'armes nucléaires, des missiles, des drones, des armées délocalisées, puisque vous avez bien vu que les États du Golfe ont été frappés, notamment par des milices iraniennes basées en Irak. Donc voilà, toutes ces choses-là, personne ne peut l'accepter. Les Iraniens ne veulent pas céder. Parallèlement à ça, vous avez les Iraniens qui demandent des réparations, qui demandent qu'on leur débloque...
De récupérer leurs avoirs bloqués.
Oui, exactement. Et qui, en plus, veulent installer un péage sur le détroit d'Ormuz qui n'existait pas avant le début de cette guerre. C'est-à-dire que ce serait une capitulation des Américains. Donc, il est inconcevable, à ce stade-là, que la guerre ne reprenne
pas. Pourquoi il ne reprend pas la guerre maintenant, alors?
Aujourd'hui, je pense que les Américains et les Israéliens travaillent sur le renseignement et travaillent sur une préparation de la reprise de la guerre. Qu'il faut bien regarder quand même la position, ce que disait l'amiral
Koldefi. Ils n'ont jamais arrêté, les Israéliens.
Au Liban.
Au Liban. Mais ce que disait l'amiral Koldefi est très intéressant par rapport à, excusez-moi, ce que vous disiez, j'ai perdu mon idée, et vous aviez dit quelque chose tout à l'heure, j'ai perdu le fil, mais...
Le fait qu'ils étaient en tension.
Voilà, exactement, vous avez dit qu'ils étaient en tension, vous avez tout à fait raison, voilà, ils étaient en tension, mais de l'autre côté, quand vous êtes en réception, quand vous êtes en attente éventuellement d'une attaque, la tension est encore plus maximale, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, il y a un moment donné où quand les Américains et les Israéliens vont frapper, avec le soutien des pays du Golfe, les Iraniens auront été tendus pendant 50 jours, au moins. Parce que ça fait 49 jours.
Du cessez-le-feu, quoi.
Voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça que moi, je ne crois pas...
Ils ont eu le temps aussi de se réorganiser, de protéger ce qu'il fallait protéger.
Alors, la réorganisation, vous avez entièrement raison, sauf qu'il y a du satellite, il y a du renseignement sur le terrain, et... Ce que personne ne sait exactement, c'est ce qui s'est passé à Pékin quand Trump y est allé. Le renseignement dont bénéficiaient les Iraniens, les satellites, la localisation des cibles au moment de la première phase de la guerre qui permettait aux Iraniens d'attaquer...
C'est-à-dire que les Chinois ont coupé la ligne de renseignement.
Il est fort probable, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que sur le détroit d'Ormuz, ce blocage de l'économie mondiale gêne énormément la Chine et que la Chine, à un moment donné, a aussi ses intérêts économiques à mettre en jeu.
Mais je sais.
Oui, alors moi, je suis persuadé que Trump ne peut plus et ne veut plus faire la guerre à l'Iran comme il l'a faite pendant les 40 premiers jours.
Vous ne croyez pas à la reprise des frappes.
Vous avez vu tout à l'heure, il y a une formule, on n'a pas continué la diffusion de son discours, mais d'abord c'est un conseil des ministres, c'est le cabinet qui est réuni. Et que dit Trump? Il fait référence à Elliot Ness pour lutter contre la corruption.
On l'a entendu.
Oui, mais c'est pour expliquer de quoi il s'agit. C'est la lutte contre les détournements des programmes sociaux, des programmes de lutte contre le Covid, c'est le gaspillage de l'État, etc. Et ça touche les Américains directement. Un journaliste lui a dit, est-ce que vous êtes préoccupé par les résultats des prochaines élections de mid-term qui ont lieu en novembre? Il a dit, pas du tout, je m'en occupe pas. En réalité, il ne s'occupe actuellement plus que de ça.
Ouais. Alors,
ça, plus la préparation des festivités du 250e anniversaire de la Déclaration d'indépendance de l'Amérique qui a lieu le 4 juillet. Un anniversaire extrêmement important. Il a même voulu se faire construire un nouvel arc de triomphe. Donc, si vous voulez, il y a ça. Il y a son anniversaire qui a lieu le 14 juin. C'est dans... Non, mais ça vous paraît...
Non, bien sûr.
Mais c'est, pour Trump, c'est très important. Il fait construire un stade spécial pour accueillir un match de MMA, vous savez, les boxeurs, les combattants. D'ailleurs, RMC Sport, il sera, je ne sais pas si vous le savez.
Oui.
Mais donc, si vous voulez, c'est un événement sportif. Mais
plus la Coupe du Monde qui arrive,
voilà,
qui est aux États-Unis.
Donc, si vous voulez, dans ce contexte-là...
Plus il va venir à Evian pour
Il est prévu qu'il vienne, on verra s'il vient aussi. Pour le G7. Ça a lieu ça le 15-16 juin. On a retardé l'organisation
donc, il y a beaucoup d'événements
du G7
qui se pour
d'une journée pour que Trump puisse fêter son anniversaire le 14 et vienne ensuite en Europe. Est-ce qu'il viendra? On ne sait pas encore. Mais vous voyez, toute cette succession d'événements qui sont très importants pour Trump, il y a des élections locales.
Oui, mais enfin, il n'a pas été au mariage de son fils.
Oui, mais ça,
ce week-end dernier,
parce qu'il n'avait pas envie d'y aller. Mais au Texas, il y a eu une élection très importante, par exemple, qu'il a gagné. Le sénateur en place, qui était pourtant républicain, a été éjecté par un pro-Trump, pro-MAGA, qu'il a soutenu jusqu'au bout. Il y a eu une campagne avec une des dépenses faramineuses, quasiment jamais vues, tellement c'était important en termes de budget. Donc, si vous voulez, c'est ça qui actuellement motive Trump, et il veut en finir. Alors, est-ce que on peut pas exclure qu'à un moment donné, l'Iran se rebiffe et décide finalement de ne pas signer et qu'il n'y ait pas d'accord? Personnellement, je n'y crois pas. On voit qu'il y a au Qatar actuellement des négociations qui ont eu lieu avec le président du Parlement, qui ont été très importantes sur la question de l'uranium, sur la question des arriérés des fonds iraniens qui sont bloqués. Ça concerne 100 milliards de dollars, dont 25 pourraient être débloqués à terme. Donc, c'est très important. L'Iran a besoin de reprendre, je dirais, une vie à peu près normale sur le plan économique. Une économie qui est affaissée, donc ils n'ont plus les moyens de survivre longtemps en termes d'économie. C'est pour ça que des deux côtés, on cherche une issue. Alors, ça peut capoter éventuellement, tous les risques sont possibles, mais la tendance actuelle, c'est la voie vers un mémorandum d'accord.
Alors, je ne suis pas d'accord. Je suis d'accord avec Ulysse sur le fait que l'Iran est vraiment exsangue économiquement. En revanche, et Trump l'a dit très clairement, il l'a dit là, il l'a répété encore, les midterms, ça n'est pas mon problème. Je crois que il faut bien se mettre en tête que Donald Trump est en train de travailler pour l'histoire, pour nettoyer la planète de cet état voyou qui terrorise la planète depuis 47 ans, qui met la planète sous sa coupe, qui essaye de bloquer le commerce international, qui finance le terrorisme dans le monde entier. Et donc, en fait, Trump, quand on parle de son anniversaire, vraiment, ça n'est pas le sujet. Le sujet vraiment final pour Donald Trump, c'est de rester dans l'histoire comme celui qui aura effacé l'affront américain de 1979 et de nettoyer cette planète et de faire en sorte que...
Oui, mais le régime est toujours en place, les gardiens de la révolution.
Comme dit Trump, le régime a changé, mais moi, si je vous dis une chose, si j'étais anti-Trump, je dirais oui, mais mon gars, il est en pire. Et oui, et vous auriez raison. Vous auriez raison parce que c'est encore pire ce qu'on a maintenant. Mais donc l'objectif est vraiment de passer à autre chose.
Sauf l'Iran... que, pardon, mais on ne comprend pas, et là je vais peut-être interroger notre militaire, mais on ne comprend pas ce que de nouvelles frappes pourraient changer précisément, puisque là il y a eu ces frappes, bon, on est arrivé à une situation où le régime est quand même toujours en place, même s'il s'est modifié, mais il s'est durci. Il y a encore une capacité militaire iranienne à envoyer des drones. Donc qu'est-ce que changerait de nouvelles frappes en fait?
Alors la banque de cibles qui a été préparée pendant 49 jours, oui, et qui permettrait d'attaquer de façon beaucoup plus précise les cibles iraniennes. Et n'oubliez pas qu'il y a quand même encore 90 millions d'Iraniens sur le terrain qui n'ont pas été aidés le 8 et le 9 juin, malheureusement, et qui pourraient constituer une aide pour renverser le régime. Oui. Et en tout état de cause...
Oui. Oui. C'est pas un scénario réaliste.
Je ne crois pas à une révolte populaire en Iran, dans un pays qui est l'objet d'une répression absolument terrible, ouais, avec des exécutions qui se poursuivent.
Exactement. Des Iraniens, il ne va pas sortir dans la rue sous les bombes.
Et c'est exact bout de souffle. Non, mais c'est pas un peuple qui est prêt à sortir dans la rue pour se faire assassiner.
C'est exactement pour ça qu'on ne peut pas maintenir ce régime.
Non, mais d'accord. Mais c'est entre eux, là, vous êtes sur vos souhaits. Mais on essaie de voir si le scénario est
le scénario envisageable est la seule chose sur laquelle on travaille. Alors, rendre de l'argent aux Iraniens, il est hors de question. Donner le désordre
c'est
hors de question.
C'est négocié concrètement en ce moment. Ça fait partie de l'accord.
Trump voudrait une capitulation sans aller au bout de la guerre. Malheureusement, face aux gens assez déséquilibrés qu'on a en face de nous, apocalyptiques, on sera probablement obligé d'aller au bout de la guerre.
Qu'est-ce que pourrait faire justement l'armée américaine de plus pour faire plier ce régime?
Non, son seul moyen d'action, ce sont des bombardements de plus en plus précis. Ça c'est la partie armée américaine, des bombardiers lourds, les avions embarqués sur porte-avions. Je rappelle que la première phase, quand même, on l'oublie souvent, a causé une forte attrition des moyens iraniens, qui n'est pas négligeable. Des milliers de cibles ont été abattues. Donc une deuxième frappe peut continuer à faire à prolonger cette attrition. Il se trouve que le régime a plutôt bien réagi à ça. Et donc on peut se poser la question de la pertinence d'une deuxième frappe. Il faut peut-être faire une deuxième, puis une troisième série de frappes, etc. Parce que oui, ce qui va faire chuter, pardon, c'est peut-être l'économie, c'est peut-être les gens qui auront faim, c'est peut-être
l'internet. C'est un soulèvement populaire à ce moment-là.
Non, je ne crois pas au soulèvement populaire. Nous, on l'a tous cru dans des tas d'endroits. On supprime le dictateur, il y a un soulèvement populaire. C'était les printemps arabes et tout ça. On s'est tous trompés. Je crois qu'il n'y a pas de soulèvement populaire, mais quand il y a 90 millions d'habitants, comme vous le rappeliez, sur un territoire assez grand, qui n'a plus de quoi se nourrir, dire qu'il n'a plus d'Internet pour faire des trucs tout aussi simples.
L'Internet est partiellement revenu, là, quand même.
Oui, mais pas encore dans le système bancaire.
Bien
pour
sûr.
Pour ceux qui veulent en profiter. Donc, la seule option militaire que peuvent présenter les militaires, c'est une deuxième série de frappes, à moins, bien sûr, de dire.
Mais des frappes civiles?
Ah, mais non.
Sur les infrastructures?
Non, alors. Non,
parce qu'on a beaucoup parlé des centrales électriques.
Mais des infrastructures mixtes.
C'est la ligne entre la guerre.
Pardon, mais centrales électriques, c'est aussi.
Les crimes de guerre contre l'humanité. Crimes de guerre, objectifs civils qui servent à rien au plan militaire, hein. Les Russes, bien sûr, font ça allègrement en Ukraine depuis le début. Pour le moment, les Américains, comme tous les Occidentaux, parfois on joue un petit peu sur les mots avec un pont qui peut faire passer des tanks, etc. Mais on n'est pas allé dans les crimes de guerre. Je ne pense pas. L'administration américaine aille dans les crimes de guerre.
Est-ce qu'il pourrait aussi viser les nouveaux responsables de ce régime?
Bien sûr. Alors ça, c'est du renseignement.
Et notamment le fils du guide qui a pris la place avec
les Israéliens, car ceux qui sont implantés sur le sol, c'est
mais amiral, vous êtes à la Maison Blanche dans la cellule de crise, et le président vous dit, amiral, je peux y aller une deuxième fois, relancer une série de frappes. Est-ce que vous me garantissez que ça fonctionne et que le régime tombe et qu'on va gagner cette guerre qui dure depuis maintenant près de 3 mois?
Non, je dirais on va détruire à 70% des moyens qui restent, etc. Mais on peut pas garantir la chute du régime, parce que la chute du régime, c'est un choc politique avec un régime qui est installé depuis 50 ans, qui a prévu de remplacer les têtes
vice-président américain.
Alors tout d'abord, ce qui est important de savoir, c'est que l'Iran n'aura jamais d'arme nucléaire. Et les jours derniers nous ont montré que c'était vrai. Ils ne pourront jamais avoir d'arme nucléaire. Le président nous a toujours dit que
la diplomatie est toujours la première option. On ne peut pas obtenir d'armes nucléaires. Kushner, Woodcock, Vance lui-même, le vice-président Vance a été impliqué. Nous allons attendre de voir comment la situation va évoluer dans les heures qui viennent. Vous avez, Monsieur le Président, d'autres options si l'option diplomatique échoue. Le résultat, c'est que nous préférons la route diplomatique et nous allons tenter d'y arriver. Nous allons tenter de donner toutes les chances à la diplomatie. Encore une fois, c'est très simple. L'Iran ne peut pas obtenir d'armes nucléaires, ni l'Iran, ni les gens qui sont en charge, qui sont responsables au plus haut niveau de l'État iranien. Et tant que vous serez président, ils n'obtiendront jamais d'armes nucléaires. C'est très clair. Deux autres points. Sur la frontière et sur la sécurité de la frontière. De quoi s'agit-il? Il s'agit de traiter des immigrés clandestins qui ne veulent pas rentrer dans leur pays d'origine pour une série de raisons. Et l'une des choses que nous avons réussi est la suivante. C'est que 20 pays ont accepté d'être des pays de transit afin de reprendre des ressortissants que des pays tiers refusent de leur côté de reprendre. Et cela se produit de la manière suivante. Alors voilà, on va avoir un immigré clandestin. Il y a une impossibilité pour des raisons laissées passer.
Donc on a entendu Marco Rubio répéter que l'Iran n'aura jamais l'arme nucléaire. C'est leur mantra, c'est la ligne de conduite, c'est la stratégie.
Oui, mais on l'entend aussi dire, il faut donner toutes ses chances à la diplomatie et on va faire le maximum pour obtenir un accord.
Ça prouve que les discussions continuent.
Oui, ça veut dire que, la stratégie, elle est claire. On va essayer d'obtenir ce que l'on veut, c'est-à-dire la fin de l'Iran nucléaire, pour résumer, la fin de la capacité de l'Iran d'avoir la bombe atomique. Et ça, c'est une ligne rouge. Mais au-delà de ça, on va faire le maximum pour y arriver. Donc, si vous voulez, l'Amérique d'aujourd'hui, elle n'est pas dans un mode guerrier. Elle est dans un mode où elle est prête, éventuellement, à intervenir, et ça, ça n'a aucun doute.
Trump a d'autres options, dit
Il y a une armada qui est toujours en place et qui est capable de frapper avec le soutien israélien, Israël n'attendant que cela. Mais entre le moment où on dit « nous sommes prêts » et le moment où on appuie sur le bouton, il y a une marge énorme. Et encore une fois, compte tenu du calendrier qui s'impose à Trump, il est dans une sorte de piège iranien qui est de plus en plus difficile pour lui parce qu'il cherche à en sortir et il n'y parvient pas. Et je ne pense pas, personnellement, bien que n'étant pas un expert militaire, qu'une nouvelle campagne de bombardement mettrait fin au régime iranien qui a montré sa capacité à résister et non seulement à résister, mais à déstabiliser l'économie mondiale, en commençant par déstabiliser l'ensemble du Golfe Persique.
Au bout du scénario qu'on évoquait, s'il y avait une reprise de la guerre et des frappes, si je comprends bien, pour renverser le régime, sans troupes au sol, c'est impossible.
Voilà. C'est ce que j'allais dire. Oui. S'il n'y a pas de troupes au sol, c'est quasiment impossible.
Oui, mais une opération façon Venezuela en Iran n'est pas possible.
Ah non, bien sûr que non. Voilà. C'est pas la dimension du pays iranien et des capacités des forces. D'autant plus que dans les objectifs militaires, là, je prends une campagne de bombardement classique avec les objectifs qui ont été définis, etc. Mais toutes les options que j'allais dire. Parallèle qu'on aurait pu prendre, détruire Hormuz, détruire l'île de Karg, etc., s'oppose sans doute aux Chinois. Et il est vraisemblable que dans la rencontre avec le président chinois, je crois que c'est vous qui l'avez évoqué, ces choses-là ont été évoquées, parce que le pétrole iranien passe par Hormuz.
Et il est acheté par les Chinois.
Et le détroit de Malacca, d'ailleurs, qui est aussi un détroit qu'on peut contrôler facilement. Donc c'est sans doute pas touche à ces objectifs qui, à mon avis, avec une vision extensive du droit, ne relèveraient pas de crimes de guerre, sachant que le pétrole participe de la capacité des Iraniens à faire la guerre. Voilà. Donc on pourrait avoir une vision comme ça.
Juste une chose au niveau du droit international. Vous savez, le droit international dont on parle souvent sur les plateaux de télévision, il a été établi en 1945 où il y avait des États, on va dire, raisonnables et il n'y avait pas des États terroristes, des organisations terroristes. Et j'ai lu récemment une analyse dans Causeur d'un jeune analyste qui s'appelle Eliot Shawat qui explique tout à fait qu'en fait, cette situation avec le droit international où on fait attention, on ne va pas bombarder un pont parce qu'on risquerait de faire un crime de guerre, alors qu'en face, vous avez des gens qui vont bombarder même jusqu'à une centrale nucléaire à Abu Dhabi, on voit bien que ça ne marche pas. Donc en fait, on peut pas se battre avec deux mains dans le dos en essayant de respecter des lois avec des gens qui vous bombardent. Donc, je ne crois pas. La situation très claire maintenant pour les États-Unis et Israël, ça va être de gagner cette guerre. Si à un moment donné, on doit passer par la destruction des centrales électriques, si on doit passer par la destruction de ponts, si on doit passer par la destruction d'infrastructures qui sont mixtes, tant civiles que militaires, il faudra y arriver parce que, je vous dis, c'est un service que l'on rend à l'humanité tout entière. Ce régime...
Moi, je dirais que vous êtes plus trumpien que Trump lui-même et que vous avez un discours qui est « va-t'en-guerre » qui correspond à celui que prononce le ministre de la guerre, Pete Hegseth, qui effectivement, au début de la guerre, a harangué ses troupes en commençant par des prières et qui est dans une sorte de mission presque religieuse et messianique. On n'en est plus là, Philippe.
Et c'est le monde entier, vous avez entièrement raison, parce que
le monde entier attend, y compris l'Amérique, attend que le détroit d'Ormuz soit réouvert et non pas qu'on se précipite dans une nouvelle aventure qui aurait un effet catastrophique. On va arriver à la fin de l'année et le détroit d'Ormuz ne sera pas libéré, réouvert. Ce n'est pas possible. Les Chinois ne le veulent pas, les Européens ne le veulent pas.
Suite la fin de l'année.
Non mais
une discussion, vous avez
pensé déjà que la reprise normale du trafic, ça va prendre au moins 3 mois. On est au mois de juin, juillet, août, septembre. La récession approche.
Ulysse Gosset, vous avez entièrement
raison.
Il faut
être raisonnable d'une certaine façon pour se projeter dans un autre scénario que celui.
Pas la Maison Blanche.
Non mais il est plus trumpiste que Trump.
Non mais vous avez raison. Celui dont je suis le plus proche, c'est Pete Hegseth. Vous avez entièrement raison.
Donc l'analyse est la bonne.
Voilà, vous avez entièrement raison.
On se connaît assez bien. Une voix qui va l'emporter.
Vous connaissez mes relations à Washington et vous savez les gens dont je suis proche. Donc vous avez parfaitement raison, mais véritablement, je crois qu'il faut que tout le monde comprenne, et je l'ai dit récemment, je crois que je l'ai dit sur votre plateau, si on paye l'essence 20% plus cher, effectivement, c'est pas bien. Mais si on doit prendre 5 ou 10% de récession dans l'année pour se débarrasser de ce régime terroriste qui met à feu et à sang la planète, ça n'est pas grave. Si on doit se passer de vacances, si au lieu de prendre l'avion pour aller au Brésil ou aller aux États-Unis cet été parce qu'on n'a plus de carburant, ça n'est pas grave. On a un régime qui nous met tous en danger. Ces gens-là ont fait sauter des bombes dans le monde entier. Et ces gens-là, si on les laisse aller plus loin, seront capables d'envoyer un missile. Regardez ce que
font. Le jour où ils auront le nucléaire, là, ça sera.
Non, mais il n'y a pas seulement le nucléaire.
Terminé. On prend
regardez,
tout
moi, j'étais à Jérusalem et j'étais à Tel Aviv récemment. Quand vous allez à Tel Aviv et que vous voyez les quartiers dévastés par les missiles qu'ils ont envoyés, si ces missiles, ils arrivent à les prolonger un peu plus loin et à les envoyer sur une capitale européenne, admettons Athènes, qui est, on va dire, beaucoup plus près que n'est Paris. Et vous imaginez pas, la dévastation que ça, à laquelle ça correspond. Donc je vous dis, ce régime doit être mis totalement à bas, et comme je l'ai dit déjà plusieurs fois, à bas les mollahs, à bas les ayatollahs, à bas les gardiens de la révolution, à bas ce régime, il faut qu'on ait, on retrouve... Je ne suis pas...
Mais d'accord, mais la stratégie des frappes militaires, c'est pas ça qui mettra à bas le régime. Ça Donald dépend. Trump a misé beaucoup sur le blocus du blocage. Moi, le blocus dis, du dis, blocage du détroit d'Hormuz. Sauf que ça n'a pas d'effet politique en Iran. Ça
vous
pas
avez tout à fait raison, Alain. Trump a d'ailleurs montré une forme d'intelligence qui a surpris tout le monde lorsqu'il a décidé le blocus.
Oui.
L'Iran menaçait de bloquer. Trump a dit, ben, c'est nous qui allons contrôler le blocus et qui allons faire un blocus américain. Et ça a fonctionné. Donc l'Iran s'est retrouvé d'une certaine manière pris à son propre jeu.
Et ça fonctionne encore.
C'était très habile.
Ça a affaibli l'économie iranienne.
Mais ça veut dire que les militaires américains qui sont très précis, très programmés, qui ont réfléchi à cette guerre depuis des semaines, ils ont compris aussi quelles étaient la limite de leur action et ils voient très bien qu'une nouvelle série de frappes ne va pas régler le problème. Donc on peut tenir un discours apocalyptique, mais la réalité d'aujourd'hui... Mais
si le blocus du blocus fonctionne, les Américains peuvent attendre encore.
Et le Dow Jones est au plus haut. La bourse américaine...
Quand les Américains peuvent attendre.
La bourse est au plus haut et l'essence aussi.
L'Iran a plus à perdre de ce blocus que les Américains.
Si vous voulez, moi quand j'entends dire qu'on peut se permettre de perdre encore 25% sur le prix de l'essence, enfin, augmenter l'essence 25%, une crise économique, la récession, le chômage, etc. Je trouve que c'est un discours extrêmement inquiétant et qui manque de prudence parce qu'on est dans un monde qui va déjà assez mal sur le plan économique.
Le chômage en France n'est pas uniquement lié à ce qui se passe au Détroit d'Hormuz.
Imaginez une récession globale. La récession est à nos portes. Si le prix de l'essence augmente encore, eh bien, ça veut dire chômage, récession et déstabilisation. Et déstabilisation de l'Europe, pas avec les missiles iraniens, mais avec le poids de
la faillite économique. Et si on laisse l'Iran avoir des missiles qui vont jusqu'à nous toucher à Paris, je peux dire que c'est pas une récession.
Mais il n'est pas question de laisser l'Iran avoir des missiles. Si Trump l'a dit lui-même, il n'est pas question que l'Iran ait l'arme nucléaire.
Je ne parle pas nucléaire. Si on les laisse avoir des missiles balistiques, ils ont réussi.
Je pense que les Israéliennes, d'ailleurs les Israéliens le disent eux-mêmes, l'Iran a, avec les frappes de juin 2025 et du début d'année 2026, je dirais, on a accumulé tellement de destruction que leur programme nucléaire est anéanti pour les 5 à 10 prochaines années.
Il n'y a pas que le nucléaire.
Et donc, si vous voulez, la menace iranienne, elle n'est pas imminente. Qu'elle ait été.
Oui, mais l'idée, c'était pas refaire la guerre tous les 5 ans, si je comprends bien aussi des Américains.
Si vous voulez, ce qui se passera dans 5 ans, vous êtes sans doute mieux placé pour moi de le dire, mais moi, personnellement, je préférerais avoir une solution rapide pour relancer l'économie mondiale, empêcher l'Iran effectivement de développer et les missiles balistiques et le nucléaire, certes, mais pas au prix d'une guerre qui serait dévastatrice, pour l'Iran, mais pour le monde entier.
Cette guerre aurait dû être menée il y a déjà bien longtemps. Elle a été refusée et repoussée par tous les dirigeants américains qui ont précédé, que ce soit Obama, Biden, Trump 1 et donc maintenant Trump 2 mène ce combat. Et si on laisse passer... Regardez les missiles qui sont allés toucher et qui ont fait ces 2000 km. Si on les laisse développer leur balistique, si on leur donne les moyens et l'argent, non seulement on risque d'avoir des missiles balistiques en Europe, mais en plus...
C'est l'intérêt de tirer des missiles balistiques sur l'Europe.
Mais on a affaire à un régime... Vous savez, vous êtes rationnel. Alain, vous êtes rationnel. On a affaire à un régime apocalyptique.
D'accord.
Pourquoi se sont-ils mis à tirer des missiles, un drone, sur une centrale nucléaire à Abu Dhabi, alors qu'ils ne sont qu'à quelques centaines de kilomètres? Vous imaginez le dégât, je dirais, écologique, dangereux, de radioactivité.
Bien sûr,
donc ces gens-là sont totalement irrationnels. Donc c'est pour ça que je dis qu'il est temps de se débarrasser de ces gens-là et de revenir sur une planète avec des gens rationnels. Je ne sais pas, je n'étais pas avec vous, on disait que Taïwan, j'étais avec Madame Galichet qui disait que Taïwan a accepté de démanteler son programme nucléaire. Effectivement, mais enfin Taïwan, ce sont des gens raisonnables, ce sont des gens cartésiens, ce ne sont pas des gens qui ont une vision apocalyptique du nouveau Mahdi qui doit renverser et qui doit convertir toute la planète au chiisme. C'est ça, ce sont les gens à qui on a affaire. Et c'est pour ça que vous voyez bien que tous les pays du Golfe...
J'ai jamais entendu dire que Taïwan avait développé l'arme nucléaire. Hein.
Ben, je suis désolé, Madame Galichet l'a écrit. Non, Taïwan a travaillé sur l'arme nucléaire.
Il faut vérifier sa formation.
Ah, c'est factuel. Je vous garantis, Ulysse, que Taïwan a travaillé...
Jamais la Chine n'aurait laissé faire ça.
Taïwan a développé un programme nucléaire qui a été arrêté avec l'aide des États-Unis. Vous pourrez vérifier avec Madame Galichet quand vous la reverrez.
En tout cas, aujourd'hui, si vous voulez, on est dans une situation où il y a deux fronts, n'oublions pas. Il y a le front iranien et il y a le front au Liban, sur lequel Israël continue de progresser et a même lancé hier une nouvelle offensive avec de nouveaux moyens et en particulier des troupes au sol, avec la volonté, si vous voulez, d'éliminer un maximum les infrastructures du Hezbollah. Et là, ce qu'on peut dire, c'est que Trump, s'il tient à respecter le cessez-le-feu avec l'Iran, laisse faire Netanyahou en Israël. Donc on voit bien, si vous voulez, le fait qu'Israël accélère la cadence. Ça veut dire que, du point de vue de Netanyahou, on a compris que la guerre en Iran allait se terminer et qu'il fallait, je dirais, accélérer les bombardements au sud du Liban avant que Trump ne signe la fin des opérations.
Ce qui prouve bien que le Hezbollah n'est pas une milice libanaise, mais une milice iranienne, une armée délocalisée iranienne qui est placée au Liban et qui déstabilise ce pays. N'oubliez pas une chose, si le Hezbollah se retire, se démilitarise, il n'y a plus de guerre avec Israël et le Liban entre effectivement dans les accords d'Abraham, ce qui n'a pour moi aucun sens quand on parle du Qatar ou d'autres pays. Mais en revanche, le Liban peut arriver à la paix demain si le Hezbollah s'arrête. Si Israël se retire du sud Liban, Israël est détruit. Si le Hezbollah se retire les armes, c'est la paix. C'est aussi simple que ça.
En attendant,
je suis sceptique.
En attendant, il faut sortir de ce conflit.
Oui.
Et c'est là pour le moment, c'est le choix que doit faire Donald Trump, parce que c'est à lui de faire ce choix. C'est lui aujourd'hui qui a eu la maîtrise militaire. C'est lui qui a lancé la guerre, ou forcé par Benjamin Netanyahu ou pas. Et donc là maintenant, c'est à lui de décider. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ça continue? Est-ce qu'il s'enlise? À un moment, son opinion, qui est contre cette guerre d'ailleurs majoritairement, les Américains sont contre cette guerre. Donc c'est à lui à essayer de sortir de la moins mauvaise des manières possibles, quoi. C'est tout le problème.
Ça n'est pas un point sens. Aux États-Unis, encore une fois, et vous parlez. Les gens sont contre. Si on leur pose la question, est-ce que vous êtes pour ou contre cette guerre?
Oui, mais
ils sont contre. Mais ça n'est pas un point central. Ça n'est pas.
Non, mais bien sûr.
Vous savez, aujourd'hui, on en parle beaucoup
en
Europe.
Son opinion.
On en parle moins aux États-Unis que chez nous.
C'est exactement ça.
Non, mais bien sûr. Sauf que son opinion, même si elle n'en parle pas, quand elle passe à la pompe, elle sait à quoi c'est dû.
Oui.
Ça c'est une certitude pour les Américains.
Vous avez entièrement raison.
Le galon n'a jamais été aussi haut, quoi.
Vous avez entièrement raison là-dessus, mais ça n'est pas... Parallèlement à ça, vous avez une chute de la criminalité.
Trump veut rester dans l'histoire, certes en ayant peut-être éradiqué le régime iranien, mais il ne veut pas être non plus le président qui aura été pendant des mois celui qui aura fait que l'essence aura été au plus haut aux États-Unis.
On ne peut pas dire qu'aux États-Unis, on ne parle pas de la guerre avec l'Iran. Je veux dire, les actualités américaines...
C'est pas le sujet préoccupant.
C'est sur les chaînes tous les jours.
Attendez, c'est une guerre qui dure maintenant depuis le 28 février. C'est une guerre qui s'est traduite par un engagement qui est le plus grand engagement de l'Amérique depuis la guerre du Golfe. Certes, sans les troupes au sol, mais quand même qui est assez phénoménal. Et les Américains savent très bien que leur pays est entré dans une guerre dont l'issue est incertaine. Et ce que se dit l'opinion publique américaine, c'est quels sont les objectifs, est-ce qu'ils ont été atteints et quand est-ce que ça se termine. Et quand on sait que Trump a été élu en disant qu'il voulait mettre fin à toutes les guerres américaines, que ça soit l'Afghanistan, l'Irak, la Syrie, etc. Aujourd'hui, il est confronté à une guerre qui dure beaucoup plus longtemps qu'il ne l'avait envisagé. Donc, les Américains, globalement, seraient absolument ravis d'en finir avec ce conflit et de penser à autre chose, et notamment au prix de l'essence et à l'économie.
Mais il y a aussi autre chose. Regardez, vous avez parfaitement raison. Tout à l'heure, vous avez parlé des primaires américaines, des primaires des sénatoriales et de certains congressmen. Vous voyez bien que tous les candidats, 100% des candidats qui ont été soutenus par Donald Trump, ont gagné, ont même fait perdre des sénateurs qui étaient établis. Donc, vous voyez bien que le soutien à Donald Trump est quand même assez fort aux États-Unis, contrairement à ce qu'on entend. Donc,
il reste très fort dans la base du parti républicain, mais il n'est pas fort dans l'ensemble de l'opinion. Les taux de popularité de Donald Trump sont les plus bas de l'histoire des États-Unis depuis la Seconde Guerre mondiale, au bout d'une année de mandat.
Mais justement, pour lui, il a plutôt intérêt à obtenir une victoire sur place.
Oui,
si les troupes américaines rentrent à la maison, mais finalement,
avec le
régime est toujours là, le détroit d'Ormuz est sous pavillon c'est iranien, et le nucléaire, le stock d'uranium est toujours sur place, je ne suis pas sûr que la popularité va remonter.
Non,
de dire qu'on arrête la guerre,
c'est bien. C'est bien pour ça qu'on parle d'un piège et finalement d'une opération, je dirais presque catastrophique pour Donald Trump, qui a engagé une guerre avec des objectifs qui ne sont pas atteints. Mmh. Et donc aujourd'hui, il va devoir le justifier.
Ou pas encore atteint,
et c'est pour cela qu'il est attaqué de façon féroce et brutale, violente, par son propre camp au sein du Parti républicain.
Mais la popularité ne remontera pas si les MAGA
qui aujourd'hui dénoncent un accord qui se ferait au détriment du prestige de l'Amérique. Donc, si vous voulez, on est dans une situation qui est extrêmement difficile, en fait, pour Donald Trump. Et la seule façon d'en sortir, c'est de trouver donc un bon accord avec l'Iran,
dans l'obligation
qui permet
quand
de sauver la face.
De dire qu'il a gagné, en quelque sorte. Les Iraniens diront aussi qu'ils n'ont pas perdu.
C'est de gagner. Et moi-même, je ne viendrai pas ici défendre un accord. Je ne viendrai pas, vous ne m'inviterez, et je ne viendrai pas pour dire « Oui, c'est super, le détroit d'Hormuz est aux Iraniens, on leur rend 20 milliards, on leur laisse le balistique, on leur laisse le nucléaire. »
Ce serait un échec pour vous.
Ce n'est pas un échec, ce serait une capitulation totale, ce serait une catastrophe. Et je vous dis objectivement, j'enlève ma cravate orange, rouge, tout ce que vous voulez.
Et d'ailleurs, et je change de parti. Là, tout le monde dira « Trump a capitulé ».
Absolument, et, oui, et c'est les élections,
il fera pas
c'est 6-0, 6-0.
C'est bien le problème auquel il est confronté, c'est-à-dire l'échec. Et le fait qu'il n'a pas atteint les objectifs.
Mais c'est pour ça que quand vous dites l'accord à tout prix, on peut penser que non, il ne signera pas l'accord à tout prix.
Quelle est l'alternative ? De continuer la guerre ?
Gagner. Vous savez la différence ? Le seul, écoutez-moi bien, les seules guerres qui se sont arrêtées, ce sont des guerres qui se sont arrêtées par une victoire totale. Regardez comment les Allemands ont capitulé, comment les Japonais ont capitulé. Donc si on laisse comme ça ces mots-là.
Et pourquoi les Japonais
ont capitulé ? Ça sera le Vietnam.
Il y a eu la bombe atomique.
Parce qu'il y a eu la bombe atomique. Oui, mais voilà. Les Allemands n'ont pas été atomisés.
On n'est pas du tout dans cette perspective-là, Philippe.
Oui, d'accord. Les Allemands n'ont pas été atomisés. D'accord, mais on
peut. Alors
on va écouter le ministre de la Défense,
de la guerre.
De la guerre.
Votre héros.
Mon ami.
Que ce soit pour la guerre de 12 jours ou l'opération Midnight Hammer, vous avez créé les conditions nécessaires pour garantir que les Américains et le monde entier soient préservés de ces menaces. Donc, quand vous avez lancé l'opération Epic Fury, nous n'avons pas fait les choses comme on les a faites sur les dernières décennies en Irak, en Afghanistan, la façon dont on a pu faire la guerre par le passé. Vous avez dit, on va être intelligent, on va utiliser la force maximale, on va les mettre à genoux. Donc que ce soit leur marine qui est maintenant au fond du golfe Persique, leur force aérienne, leur base industrielle, ils ont peut-être des missiles, mais ils ne peuvent plus en construire. Ils ne peuvent plus construire de drones ni de navires. Donc maintenant, ils supplient de négocier. Et donc Steve, Jared, d'autres font partie de ces négociations. Et pendant ce temps-là, nous avons installé un blocus extraordinaire et ils n'ont pu faire rien entrer, rien sortir des ports iraniens. Et ça, on le sait grâce à nos renseignements. Leur économie s'est complètement effondrée puisque elle dépend beaucoup du commerce maritime. Donc grâce aux efforts de vos négociateurs, maintenant nous allons garantir qu'il n'ait jamais d'armes nucléaires. Ou alors il faudra revenir au ministère de la guerre et finir le travail qu'on a commencé et nous sommes prêts à le faire. Même ce qu'on a fait sur la flotte fantôme iranienne, nous avons agi pour pouvoir détruire leur économie. Et tout cela est possible grâce aux investissements que vous avez faits dans ce ministère. Pour la deuxième année consécutive, nous avons des niveaux de recrutement records dans l'armée. C'était déjà le cas l'année dernière. Cette année, c'est encore plus le cas. Les Américains se réjouissent de voir ce que nous faisons d'un point de vue militaire. Notre base industrielle a été fortement renforcée avec des milliers de dollars d'investissement, plus de 50 milliards d'investissements, avec de nouvelles usines, de nouvelles lignes de production. Nous avons maintenant des armes plus rapidement que par le passé et vous êtes engagé à investir plus de 1500 milliards de dollars dans le ministère et cela signifie qu'il y aura également plus d'emplois pour construire des F-27, des B-21. Nous allons construire des millions de drones également. Et nous allons faire tout cela plus rapidement que nous le croyons possible et pour moins cher. Vous avez vu ce que nous sommes capables de faire. Nous avons pu mener des opérations extrêmement importantes, notamment avec le Venezuela. Nous avons une frontière qui est sécurisée maintenant dans le sud. Nous sommes maintenant en guerre contre les cartels grâce à notre coalition contre les cartels. Le Venezuela va participer également à cela. Et pour vous donner une idée de l'engagement de notre président, je peux vous dire qu'il y a un an, le président a entendu l'appel des chrétiens du Nigeria qui étaient attaqués. Et il a dit, je veux que le ministère de la guerre se concentre sur ce sujet et que nous fassions tout ce que nous pouvons pour protéger ces chrétiens. Des partenariats comme cela peuvent prendre du temps et ça se passe en coulisses, mais il n'a jamais abandonné. Et maintenant, nous avons fait ce qu'il faut. Bien sûr, nous n'avons pas communiqué là-dessus, mais nous avons pu tuer le numéro 2 de l'État islamique. Nous avons pu cibler des centaines de membres de l'État islamique qui s'attaquaient à des chrétiens dans le Nigeria. Donc il y a beaucoup de choses que l'on fait, que l'on voit dans les médias, mais il y a également un certain nombre de choses qui sont faites en coulisses par le président au nom du peuple américain, et on peut le remercier pour cela. Merci.
Sur les chiffres du recrutement, nous sommes très fiers, puisque pendant 4 ans, les administrations précédentes n'ont pas réussi à faire le recrutement nécessaire, ni dans la police, ni chez les pompiers. Donc on avait du mal à trouver du personnel en uniforme. Il y avait des chiffres records sous Biden.
Bonsoir à tous. Voilà pour ces longs discours préliminaires donc autour de Donald Trump ce soir à la Maison-Blanche, le président américain qui réunit son équipe. Beaucoup de choses dans ce que dit Donald Trump, et d'ailleurs pas toujours en lien avec le conflit au Moyen-Orient. Si vous nous rejoignez à 18h45 sur BFM TV, d'abord soyez les bienvenus. Et ensuite, on va tout de suite aller retrouver Antoine Hollard, qui suit lui aussi cette réunion à la Maison-Blanche. Antoine, je disais, il y a beaucoup de choses dans ce que dit Donald Trump, beaucoup de choses qui n'ont absolument aucun rapport avec la guerre en Iran. Il a parlé tout à l'heure du prix des médicaments. Qu'est-ce que vous, Antoine, vous arrivez à comprendre de ce que dit ce soir le président américain ?
Écoutez, il faut bien voir une chose, c'est que ces conseils des ministres sous Donald Trump, ça n'est pas du tout le lieu où l'on prend les grandes décisions. En fait, c'est un grand spectacle, une grande opération de communication. Vous l'avez vu, les caméras sont présentes du début à la fin. Elles filment l'intégralité de la réunion, qui est retransmise d'ailleurs en direct parfois sur certaines chaînes info. Et donc, c'est l'occasion pour Donald Trump de faire passer des messages et surtout de vanter son action. C'est donc ce qu'il a fait tout à l'heure, en vantant son action sur le pouvoir d'achat, en disant que grâce à lui, le prix des médicaments a baissé. L'occasion de vanter son action un petit peu en Iran, il en a parlé un petit peu, mais pas tant que ça, pour expliquer bien qu'il n'était pas satisfait pour le moment du résultat des négociations. Son ministre des Affaires étrangères, Marco Rubio, en a un peu remis une couche en disant que la diplomatie reste l'option privilégiée par le président américain pour régler le conflit, mais qu'il y a d'autres options à disposition, sous-entendu donc une possible reprise des hostilités. Rubio reconnaît néanmoins qu'il y a eu des progrès qui ont été accomplis. Il dit qu'il faudra voir si ces progrès se confirment dans les prochaines heures ou les prochains jours, mais globalement, on sent que le ton est un petit peu moins optimiste que le week-end dernier lorsque l'administration Trump expliquait que l'accord était à portée de main. Et puis, ce qui était frappant aussi pendant ce tour de table qui n'est pas encore terminé, c'est que Donald Trump a fait un très très long monologue sur les travaux qu'il a lancés autour du Lincoln Memorial. C'est un bâtiment, un monument ici au centre de Washington. Il y a un bassin devant que Trump est en train de rénover à grands frais. Et il a parlé pendant de très très longues minutes en détail sur l'avancée de ces travaux. On sent que c'est un sujet qui le passionne vraiment, peut-être plus même que la guerre en Iran. Globalement, le message aussi, en tout cas sur la guerre en Iran, que l'administration veut faire passer, c'est que Donald Trump n'acceptera pas un accord au rabais. Et ça, c'est un message important pour l'administration au moment où il y a des doutes qui s'expriment aux États-Unis, notamment dans le camp républicain, sur le fait que Trump pourrait lâcher trop de lest et accepter un mauvais accord pour sortir au plus vite du bourbier iranien.
Merci Antoine, on vous laisse sous votre parapluie, continuez à surveiller donc ce qui se passe à l'intérieur de la Maison-Blanche et vous nous rappelez évidemment s'il y a des choses intéressantes à nous dire. On va en parler ce soir avec Gilles Kepel, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur émérite des universités, spécialiste du Moyen-Orient, Louis Gauthier, bonsoir. Bonsoir. Ancien secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale, et avec Ulysse Gosset, bien sûr, à mes côtés.
Bonsoir.
Bonsoir Ulysse. Pour ceux qui n'ont pas suivi ces 20-30 minutes de discours de Pete Hegseth, de Marco Rubio, de Donald Trump, avant donc cette réunion qualifiée comme une réunion de crise à la Maison-Blanche, on a donc parlé de la rénovation de la Maison-Blanche, du prix des médicaments, de Cuba, de plein de choses. Le mot Iran, d'ailleurs, Donald Trump a confondu Iran et Venezuela à un moment. On a presque l'impression, Gilles Kepel, si on arrivait aujourd'hui que les États-Unis ne sont plus en guerre.
Oui, c'est tout à fait curieux. Il est dans une espèce à la fois d'hystérisation et de déni, comme si ce qui se passait en Iran faisait partie de la fantasmatique qui est la sienne. Or, la situation en Iran n'est pas tout à fait celle-là, puisque d'une certaine manière, les États-Unis aujourd'hui ont perdu l'initiative. Ce sont les Iraniens qui sont en train de faire monter les enchères et qui en particulier se trouve dans une situation où, par exemple, il négocie avec le Qatar d'obtenir 12 milliards d'avance sur des dommages de guerre. Les Qataris se font déclarer prêts à payer pour éviter des conflits avec l'Iran à l'avenir. On est dans quelque chose qui ne correspond pas du tout au plan, qui étaient les plans de la Maison Blanche. Et on a ce discours qui donne le sentiment un peu de tourner
d'un jour sans fin.
Oui, et qui est quand même assez décousu. On a un peu du mal à comprendre de quoi il s'agit, même habitué à Trump. Ce qui, quand même, pose des problèmes aujourd'hui sur ce qu'est la puissance américaine, sur sa capacité à défendre ses alliés et à terroriser ses ennemis, dans un contexte où on a quand même l'impression que jour après jour, les enjeux de politique intérieure américaine prennent le dessus. Mmh. Cela étant, ces effets d'annonce perpétuellement contradictoires se traduisent par un effondrement de plus en plus grand dans les sondages, même si c'est un peu dissimulé aujourd'hui par le fait que aux primaires qui vont désigner les candidats républicains au Sénat ou à la Chambre des représentants, il y a un effet de solidarité qui fait que ce sont quand même les candidats trumpistes dans la ligne qui l'emportent plutôt sur ceux qui étaient dissidents. Mais après, il est possible...
Il reste populaire, Donald Trump, au moins dans son électorat, dans son...
Plus ou moins, mais il est possible que tous ceux qui n'ont... Tous les républicains qui n'ont pas voté les gens qui suivent ces directions un peu erratiques, se détournent et votent pour son adversaire.
Je reprends deux des déclarations du jour. Il y a quelques minutes, vous les avez peut-être suivies en direct sur BFM TV. Pitik-Sett, le ministre de la Guerre, les États-Unis sont prêts à finir le travail en Iran. Marco Rubio, la diplomatie reste privilégiée. Louis Gauthier, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Est-ce que ça veut dire que Donald Trump, finalement, et son équipe multiplient les discussions qui vont, les phrases qui vont dans les deux sens, la guerre ou la paix, et que l'objectif, c'est juste de sortir de cette guerre sur la pointe des pieds le plus discrètement possible, sans que ça se voit presque?
En tout cas, cette séance donne l'impression que l'administration Trump, a commencé par lui-même, noie le poisson. Ils sont dans une double nasse, la nasse du Golfe Persique et du Détroit d'Ormuz, et maintenant, ce qui vient d'être dit à l'instant, dans une nasse diplomatique où, au fond, les Iraniens, on est habitué à leur stratégie, à leur calcul diplomatique, ont ajouté tellement de choses à la négociation, tellement de présupposés, tellement de préalables, ont eux-mêmes déployé une activité diplomatique contre, que c'est aujourd'hui difficile, en tout cas pour cette administration, de se sortir de ces deux nasses. La nasse militaire, peut-être que c'est à raison sans doute de mettre en avant les résultats qui ont été obtenus sur le terrain, mais ces résultats, ils ont été obtenus il y a très longtemps. Et aujourd'hui, de toutes les façons, la voie militaire ne ferait que qu'enfoncer les États-Unis dans une guerre qui ne parvient pas à ses effets. Et la voie diplomatique, c'est normal qu'elle soit en partie masquée. Donc Rubio est quand même dans une difficulté. Ça ne veut pas dire que la voie diplomatique ne va pas l'emporter. Ça veut dire en revanche qu'il y a des prises de gage de part et d'autre dans cette négociation qui sont apparues récemment. Les avoirs iraniens, la problématique du côté iranien, la problématique de la liberté sur le détroit, voire de sa cogestion par Oman, et du côté américain, quelque chose qui est invraisemblable, c'est ce qu'il demande à ses partenaires et alliés d'adhérer aux accords d'Abraham, ce qui est évidemment impossible. Donc tout ça vient en surplomb, masque une négociation qui, à mon avis, quand même, avance sur le fond, mais bute sans doute sur la question du nucléaire, c'est-à-dire que je n'imagine pas que les Américains puissent signer quelque chose aujourd'hui, y compris pour renvoyer cette discussion de fond à un peu plus tard, sans avoir d'abord un engagement des Iraniens sur cette question.
Ouais, mais pendant qu'on surveille la Maison-Blanche, du côté d'Ormuz, absolument rien n'est réglé. Les bateaux passent au rythme d'une petite vingtaine chaque jour. L'Iran dit aujourd'hui, nous contrôlons et nous contrôlerons dans le futur ce détroit d'Ormuz. Gilles Kepel, est-ce qu'il est possible que, ad vitam aeternam, ce détroit désormais soit iranien et juste iranien?
C'est quand même très peu probable parce que c'est un enjeu mondial. C'est aujourd'hui ce que les Iraniens font monter dans la négociation. Puisque pour lâcher Hormuz, ça va coûter de plus en plus cher. Et ça coûte déjà au Qatar, apparemment, 12 milliards de dollars pour faire passer les méthaniers dans le détroit librement. Vous voyez.
Donc il va falloir mettre ça tout en haut de la pile dans l'accord quand même.
Ils ont à mon avis trois clés qu'ils ont rajoutées à cette négociation, en prenant la négociation au col. Il y a cette question du détroit et d'une régulation qui, vous avez raison, serait impossible au regard du droit international, inacceptable pour les Américains. Il y a les avoirs et il y a même aujourd'hui ce qu'ils ont ajouté, les bases.
Les bases américaines.
Interdire de bases américaines.
Voilà, tout ça, ce sont des éléments qui sont rajoutés.
Mais là, c'est une capitulation.
Oui, mais les Iraniens sont habiles. Ils ont rajouté des préconditions pour pouvoir les lâcher le moment opportun.
En échange
de ce qui est pour eux très important, la levée des sanctions, sans doute immédiatement les avoir, et ensuite de différer la question d'Ukraine à une négociation plus tardive. Mais pour rentrer dans cette négociation plus tardive, pour les Américains, on ne peut pas lâcher un minimum d'accord sur cette question.
Mais alors, sur quoi il va lâcher? Sur quoi il peut lâcher Donald Trump avec des échéances sur la scène nationale? On parle de début juillet, la fête nationale, les 250 ans de l'indépendance, les prix du baril, la Coupe du Monde de foot.
La Coupe du Monde, oui, c'est ça. Voilà. Il s'est mis dans une situation épouvantable. Ce qui est probablement, qui explique ce discours à forme un peu délirante, qui part dans tous les sens, comme si c'était une multiplication de satisfecits ponctuels dont la somme ferait une grande victoire. Mmh. Mais au bout d'un moment, ça ne marche plus. L'histoire des avoirs est très importante parce que, en réalité...
Je peux vous interrompre un instant ? C'est une formule qu'on utilise beaucoup, y compris sur ce plateau, les avoirs iraniens bloqués à l'étranger. De quoi on parle ?
Oui, alors, il y a 25 milliards d'avoirs iraniens qui ont été bloqués dans le cadre de sanctions multiples. Les Iraniens exigent que ça leur soit rétrocédé. Et c'est les Américains qui les gardent quelque part. Trump ne veut pas les rendre. Et le Qatar, aujourd'hui, c'est pas encore fait, mais laisse entendre qu'ils peuvent mettre au pot, le Qatar a un trésor gigantesque accumulé par la rente gazière, qu'ils peuvent mettre au pot 12 milliards de dollars pour donner aux Iraniens l'opportunité de ne pas perdre la face et d'ouvrir le
12 milliards qui ne sont pas des avoirs gelés. Un cadeau du Qatar.
Qui serait peut-être la contrepartie d'avoirs qui ont été bloqués dans le cadre d'une négociation précédente sur des indemnisations de libération d'otages. Donc, ce qui aurait été bloqué au Qatar parce que les Américains, au dernier moment, ont refusé que cet argent soit versé. Alors, ce serait peut-être de l'argent qatari, mais qui serait quelque part une contrepartie de ces sommes. Mais ce qui est important, c'est que si l'Iran obtient 6, 12, 20 milliards, c'est l'asphyxie de sa société et de son économie. Enfin, ils ont une bouffée d'air.
Oui, parce
que un impact immédiat pour...
Ça, c'est un autre enjeu, c'est-à-dire aujourd'hui, on a l'impression que Trump est parti en vrille, si vous me passez l'expression, et que l'Iran est en train d'accumuler des succès, en gros, de joueurs d'échecs face à l'agent immobilier. J'ai rien contre les agents immobiliers. Mais,
Comment se fâcher avec tous les agents immobiliers qui nous regardent?
Oui, ça va, j'ai pas d'appartement à vendre pour l'instant, ni à acheter, bon. Et ni à louer, heureusement. Mais, l'enjeu, c'est que, la société iranienne, elle tient pour l'instant parce qu'il y a cette espèce de tension militaire gigantesque.